Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Quand ma canette, ça part en cacahuète et que je me retrouve avec un énorme bourdon de fil, ça c'est des trucs, ça, je n'ai pas la patience, ça peut me faire péter des plombs. C'est-à-dire que je peux me retrouver chez moi en hurlant, vraiment, en pleurant, c'est déjà arrivé, de pleurer en faisant, mais vraiment les crises de nerfs, mais pas possible quoi. Et ça c'est ce que je redoute le plus à chaque fois.
Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interviewe des créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture sur les réseaux. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mélodie alias Mélococo. Mélodie est chef costumière et styliste. Si vous avez un peu suivi ce qui se passe sur YouTube depuis une petite dizaine d'années, c'est sûr que vous avez vu son travail, peut-être même l'avez-vous aperçu dans certaines vidéos. Mélodie s'est mise à la couture il y a quelques mois maintenant et elle nous en parle. Bonjour Mélodie, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bonjour, eh bien, je m'appelle...
Ça commence comme ça,
ça je suis commence désolée. Comme ça, non, t'inquiète. Je m'appelle Mélodie, mon petit pseudonyme sur internet c'est Mélococo, je suis chef costumière, je travaille beaucoup sur internet, en télévision, et je suis aussi ce qu'on dit vulgairement influenceuse.
Waouh, t'influences les gens ?
Ben alors, moi ça me dérange un peu parce que j'ai pas l'impression d'influencer grand chose. En tout cas, ce que je préfère dire c'est que, et c'est vrai, je crée des contenus sur internet, sur différentes plateformes, je mets en ligne des contenus. Voilà, ça me plaît mieux.
Tu fais des petites vidéos, tu fais des jolies photos.
Exactement, je fais des petits TikTok, je crée des vidéos plus longues sur YouTube, je fais des stories sur Snapchat, je suis vraiment une créatrice de contenu, quoi.
Et comment ça a commencé tout ça ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Et au fur et à mesure, moi j'ai l'impression en tout cas que tes contenus de plus en plus sont axés couture, en tout cas sur tous les reels que tu fais, toutes les petites vidéos courtes que tu produis sont quand même très axées couture dernièrement. Comment c'est parti ?
Comment c'est parti à l'origine de ma présence sur les réseaux ? C'est ça ta question ?
Ta présence sur les réseaux et comment ça a dérivé ensuite vers la couture ?
Alors, il n'y a pas eu de déclic pour ma présence sur les réseaux. Il faut savoir que moi, c'est un truc, les réseaux sociaux, j'ai toujours été hyper à l'aise avec ça. C'est-à-dire que quand Facebook a commencé à démarrer, moi j'avais déjà un compte dessus. J'ai toujours été un peu fascinée par le garder le contact, en fait. Et du coup, j'ai toujours été très très à l'aise. Donc que j'ai 20 abonnés ou que j'en ai 20 000, j'ai toujours eu le même ton, en fait. J'ai toujours utilisé les outils. On peut faire des stories, je fais des stories. On peut se montrer face cam, je me montre face cam. En fait, ça s'est fait très naturellement. Et du coup, les abonnés, ça a commencé un tout petit peu sur Vine à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles de Vine.
Ah, mais t'es une ancienne.
Eh ouais, je suis une ancienne. La petite plateforme qui permettait de faire des vidéos de 6 secondes qui bouclaient. Donc attention, hein, j'avais pas non plus beaucoup d'abonnés. Mais disons que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir d'autres gens que mes amis qui m'ont suivie. Et puis après, c'est parti un peu plus sur Snapchat, à l'époque des stories. Et puis c'est vrai que quand Instagram a permis de faire des stories, bon, j'ai un peu lâché Snap, et du coup, c'est là où la communauté a un petit peu grandi. Bon, aujourd'hui, je suis aussi sur Snap, comme ça, je suis partout. Mais voilà, c'est comme ça que les abonnés sont venus au fur et à mesure. Et du coup, il n'y a pas eu de déclic, parce qu'en fait, moi, je suis restée exactement la même, entre guillemets. Juste, j'ai utilisé les nouveaux outils que les plateformes me proposaient. Et du coup, moi, je suis très à l'aise en vidéo. J'adore ça. C'est vrai que je suis moins à l'aise avec la version longue rapport au montage. Donc, sur YouTube, c'est là où je peine un peu plus. Et du coup, le format Reels est un format qui me convient complètement parce que c'est de la petite vidéo, que déjà, moi, je montais un peu mes stories. Donc, en fait, un Reels, pour moi, c'est juste une story un peu plus story télé, entre guillemets. Et du coup, hop, comment j'en suis arrivée à faire des petits tutos couture? Eh bien, l'an dernier, sous couvert d'un jeu de mots pas terrible qui est outfit, le lien entre le mois d'août et l'outfit, le terme anglais pour désigner une tenue, un look, je faisais des petites vidéos quotidiennes où je mettais en scène mes propres vêtements à base de transitions. C'était très simple, c'était de toutes petites vidéos de 6 secondes, 10 secondes. Ça avait bien marché, le format quotidien. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je pense à quelque chose de beaucoup plus créatif pour l'année d'après. Et je cherchais, je disais, je vais pas refaire des transitions. Il faut que je fasse quelque chose de plus malin, de montrer les vêtements, mais plus malin, plus moderne, plus éthique, etc. Et c'est comme ça que j'ai pensé à l'idée de faire des tutos, en fait. Alors, le tuto est un bien grand mot, parce que je suis pas sûre que les gens arrivent bien à suivre ce que je fais. Tu le fais beaucoup mieux que moi. Ouais, si.
C'est beaucoup plus long aussi. C'est sur un format court comme tu fais, c'est vrai que c'est difficile de toute façon d'être précis et de montrer toutes les étapes.
Après, c'est vrai que mon but, c'est pas... si bien sûr, il y a des gens qui refont ce que je fais et c'est super, mais mon but, c'est de surtout montrer que c'est possible. C'est surtout ça, en fait. C'est pour ça qu'elle est pas trop courte, pour que les gens se disent pas « Bah oui, bah elle est pro, donc bien sûr. » Et elle est suffisamment longue pour que les gens se disent « J'ai pas tout capté, parce que c'était un peu court, mais ça a pas l'air si compliqué que ça. » Et je peux essayer, en tout cas. Et c'est comme ça que je suis arrivée à des petites vidéos tuto couture.
Parfait.
Est-ce que j'ai bien résumé?
Je savais pas que c'était parti d'un jeu de mots un peu bancal, comme tu dis, sur août et outfit. Mais c'est très marrant. Et du coup, donc ça fait quoi? Ça fait depuis le mois d'août de cette année que tu montres que tu fais de la couture sur les réseaux?
Exactement. Ça fait depuis le 1er août 2022.
Mais attends, mais avant, t'avais fait des trucs aussi. La tenue de Britney Spears.
Oui. Ah oui.
Et ça, c'était avant août.
Ah ouais, ça c'était avant août.
Tes galères pour teindre des tissus, tout ça.
Quelle mauvaise idée, mon Dieu. c'est là où le parcours, il est assez atypique parce qu'en fait, je n'ai jamais appris à coudre. Personne ne m'a jamais appris à coudre. Et j'ai une machine dans les mains depuis que j'ai 22 ans, soit 15 ans à peu près.
Non, rajeunis. Non, ça fait 5 ans à peine.
Depuis 2 ans et demi, ouais, j'ai une machine.
Depuis 2 ans et demi, tu fais de la couture.
J'ai une machine à coudre qui était à ma mère, qu'elle m'a donnée parce qu'elle en avait changé depuis que j'ai un truc comme 22 ans. Et la couture est quelque chose, enfin la création qui m'a toujours attirée, c'est le métier que j'aurais rêvé de faire, de créatrice de mode. Donc bah, pour moi, ça passait par savoir coudre. Or, je ne savais pas coudre. Il faut savoir qu'à l'origine, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu des costumes, je suis éducatrice spécialisée. Et les études, je les ai un peu mal vécues parce qu'en fait, je n'étais pas à ma place, tout simplement. Et c'est vrai que pour pallier le fait d'être pas hyper à l'aise dans mes études, je faisais de la couture. Alors, je faisais de la couture, c'était un bien grand mot. J'achetais dans des friperies des vieilles têtes d'oreiller parce que le tissu coûtait 2 euros et c'était un moyen peu onéreux d'avoir du tissu. Et je faisais des tabliers, des petites choses. Enfin, vraiment, c'était... Voilà. Et bien sûr, très vite, je voyais que je n'avais pas toutes les compétences en couture. Et puis, je suis devenue par la suite costumière. Et j'ai eu pas vraiment de couture à faire, en fait. Quand on est costumière, c'est pas vraiment de la couture qu'on fait. C'est plus de l'achat, de la location, trouver, fouiner, chiner. Mais c'est pas tellement de la couture. On coud en dernier recours parce que très souvent, on n'a pas le temps pendant les prépas de costumes. pour coudre les choses. Donc vraiment, quand je couds, c'est que ça n'existe pas. Donc il y a eu quelques projets de couture dans ma carrière de costumière, mais quand je couds, c'est vraiment
parce que t'as pas le choix, quoi.
J'ai pas le choix. Et d'autant que j'avais commencé à créer une sorte de... Alors, c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est pas vrai, mais j'avais commencé à créer un... J'ai pas les compétences, je sais pas faire, je suis une arnaque, en fait, je sais pas vraiment coudre, je bricole. Et du coup, ça me crée un stress de ne pas réussir. Et du coup, comme il y avait de l'attente, quand je dois faire des costumes, c'était vraiment un stress, mais incommensurable, qui faisait que je faisais tout au dernier moment, donc dans la panique, donc c'était un cercle vicieux, parce que dans la panique, du coup, c'était moitié réussi, et du coup, je disais, bah oui, parce que je suis pas compétente, je sais pas vraiment faire, donc là, le résultat n'est pas très cool. Et du coup, je faisais le moins possible de couture. Mes projets de couture au costume, pour les autres, c'est-à-dire, là, je parle pas de la robe Britney Spears, ça se limite à une tenue de cheerleader pour le studio Bagel, enfin, 5 exactement, tenues de cheerleader, et une tenue pour le clip, un clip de Natou. Il fallait absolument une tenue jaune sur le thème du tennis, et je trouvais rien de joli, et j'avais bricolé un truc en maille 3D, la veille pour le lendemain, qui fait carrément la blague, mais faut pas le regarder dans les détails, quoi. Donc voilà, j'avais vraiment créé ce truc de « non mais je sais pas faire, je sais pas coudre », et dès qu'on me demandait un truc, je disais « ah non mais moi tu sais, je suis pas très bonne couturière ». Voilà, ça c'est le processus que j'ai eu jusqu'à cet été de « non non mais moi, je suis pas très bonne couturière ». Et donc cet été, je me lance dans ce projet fou de faire de la couture en me disant « bah voilà, je vais être celle qui sait pas faire et qui vais montrer aux autres ». Et en fait, bah, de vidéo en vidéo, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvaise que ça.
Et à force de faire, en plus, on progresse.
Mais c'est, en fait, ce qui s'est passé, c'est fou. C'est vraiment que j'ai commencé le 1er août en me disant « je sais pas faire et je vais montrer aux gens qu'on peut faire quand on sait pas faire ». Et chaque vidéo, je me retrouvais avec mes projets en me disant « mais tu sais faire, en fait ». Et j'envoyais des messages à mes copines en me disant « pourquoi, pendant 15 ans, je me suis mis dans la tête « ah non, mais moi, ah non, non, il faut pas compter sur moi, ah, moi, je sais pas faire, oulala, moi ». Alors qu'en fait, si. Alors, bien sûr, je vais pas te faire une chemise, je vais pas te faire une veste blazer, mais je suis capable, je couds plutôt bien, je couds droit. Enfin, vraiment, tout va bien, quoi. Voilà, le processus fou de s'ancrer dans la tête quelque chose qui est pas vrai, en fait.
Voilà. Parfait. Je pense que tu as très bien résumé ta découverte et ton apprentissage de la couture. Mais du coup, tu me dis que c'est ta maman qui t'a filé sa machine à coudre. Ça veut dire que tu baignais entre parenthèses, entre guillemets, je confonds parenthèses, guillemets, c'est vraiment un souci, quoi. Tu baignais quand même dans cet univers où tu avais quelqu'un, en tout cas, qui te montrait que c'était possible de créer ces vêtements, ou en tout cas, je ne sais pas ce que fait ta maman comme couture, mais dans mon cas, par exemple, je n'ai jamais eu personne qui a cousu à côté de moi. Personne ne coud autour de moi.
Alors, ma mère a une machine pour tout ce qui est retouche, etc. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas vue faire des gros projets. Et en même temps...
C'est pas elle qui t'habillait, qui te forçait non. peut-être à porter des trucs qu'elle avait fait. Et puis, en tant qu'ado, tu détestais ça.
Non, pas du tout. Alors non, okay. Pas du tout. Je sais que plus tard, mais je ne vivais déjà plus avec elle, elle s'est lancée dans des projets de création de vêtements, mais pour... Enfin, des reproductions, genre des costumes ou des déguisements. Enfin bon, bref, ça, c'est ma sœur qui avait créé en Auvergne une boutique de location de vêtements d'époque. Je crois que ma mère faisait des reproductions, mais je vivais déjà plus avec elle. Donc, c'est pas ça. Elle avait une machine, je l'ai vue faire des choses, mais c'est pas ça qui m'a fait baigner dans la création à proprement parler, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et t'as quand même, cependant... à quel moment, toi, tu fais des études de... tu m'as dit d'éducatrice spécialisée.
Ouais.
Et comment tu glisses vers le stylisme ? Parce qu'au final, ton métier aujourd'hui, c'est d'être styliste. Tu l'as dit, hein, pour le web. J'ai vu que tu avais fait du cinéma aussi, de la télé, pas mal. Du clip.
Ouais.
Comment tu... Alors, les milieux de la télé, c'est un peu particulier. Hein. Moi, je viens de là aussi. On peut se retrouver à des postes sur un malentendu et ça marche et au final, moi j'ai fait carrière comme ça, hein,
c'est vrai.
Comme un gros imposteur. mais et au final on apprend sur le tas et il y a des trucs moins qui, voilà, qui sont moins bien mais on les oublie vite et on continue parce qu'on a besoin de moi j'ai commencé en tant que caméraman, j'ai commencé sur un direct, j'avais tenu une fois une caméra de ma vie, tu vois.
C'est pas vrai.
Mais ça, en direct sur une chaîne qui est morte hein, maintenant, qui s'appelait Fun TV. Mais j'avais fait une soirée quelques jours auparavant avec un réalisateur sur cette chaîne. J'étais en école de cinéma, mais pas du tout pour être caméraman. Et le mec m'a rappelé en me disant écoute, il me manque un caméraman, est-ce que t'as déjà tenu une caméra? Oh. Évidemment. Et donc je me suis pointé à M6, parce que c'était une chaîne d'M6. Je me suis pointé à M6 et on a fait un direct. Voilà, j'avais jamais tenu de caméra et j'ai été rappelé ensuite régulièrement.
Donc tu n'avais jamais tenu de caméra et tu as dit évidemment.
Bah, j'avais tenu une caméra, mais une petite caméra de point, tu vois, qu'on a dans les écoles qui valent moins de 1000 euros. Et là, la caméra des plateaux d'M6, c'est des trucs qui valent facile 100 000, quoi. Donc, c'était pas du tout le même équipement. Et voilà, j'ai un peu improvisé. J'avais 24, je pense. 24 ans.
J'adore cet âge.
J'ai l'impression que les mecs en télé, ou les nanas, hein, dans ton cas, parfois se retrouvent à des postes auxquels ils n'avaient pas... Enfin, on découvre un peu l'univers de la télé en même temps qu'on le pratique. Et bon, bref, comment toi, tu as réussi à te retrouver styliste sur toutes ces productions? Est-ce que c'est du hasard ou est-ce qu'il y avait quand même une volonté de ta part de faire ce truc-là, d'être styliste à la base?
Non, il y a une volonté. Moi, en fait, depuis toute petite, quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être créatrice de mode. Je voulais être Coco Chanel, Moi, j'avais des cahiers, je dessinais des robes. C'était vraiment ça, mon truc, quoi. Sauf que...
Donc, t'es devenue Mélo Coco, finalement.
Je suis...
Mélo Coco Chanel.
Je suis devenue... ouais, regarde, c'est tatoué sur mon poignet. C'est devenu...
Ah, pas mal.
Ouais, je suis devenue... Enfin, alors, pas vraiment. Je suis pas devenue Mélo Coco Chanel. Je suis devenue Mélo Coco Costume, quoi. C'est encore autre chose. Mais ouais, moi, quand j'étais petite, je voulais faire ça. C'était vraiment le rêve de ma vie. Et du coup, quand... il a fallu choisir ses études, ben moi je viens pas d'un milieu où on fait des métiers créatifs comme ça. Mes frères, ils sont militaires, gendarmes, infirmières, profs de maths, inspecteurs des impôts. Tu sais, c'est vrai. On fait pas des métiers comme ça. Et donc moi, quand il a été question de faire ça, ben mes parents, avec tout l'amour qu'ils ont pour moi, m'ont dit, bah non, tu vas pas faire ça, parce que ce qui va se passer, Mélo, c'est que tu vas devenir tu vas faire des retouches de jeans dans un atelier de c'est pas ça que tu veux faire, donc tu vas être malheureuse, donc non, tu fais autre chose. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dirigée vers un métier plus comment dire ça, plus honorable auprès de mamie, tu vois, genre tu vois ce que je veux dire,
plus raisonnable. Ouais.
Et oui.
Moins qui sort moins des chantiers, voilà. des sentiers battus,
bien sûr. Et donc c'est comme ça que je me suis retournée vers le métier d'éducatrice spécialisée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le concours d'éduc, il est dur à avoir, je ne sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Et du coup, quand je me suis retrouvée au milieu de tous les autres élèves passionnés, je ne dis pas que ce métier me déplaisait, parce que je l'avais exercé. En fait, pour rentrer dans l'école, il faut que tu aies de l'expérience. Donc, le milieu du social me plaisait de ouf. Mais en fait, je me suis rendu compte, quand je voyais des gens qui avaient les yeux qui brillaient, que moi, mes yeux, ils brillaient ailleurs, en fait, tu vois. Et c'est comme ça qu'au bout de... Au bout de 2 ans de formation, j'ai annoncé que je la quittais, que j'allais même pas au bout, j'ai même pas mon diplôme, je me suis barrée avant, parce que moi, je voulais absolument, j'avais 24 ans, et que j'estimais qu'il était encore temps que je fasse une reconversion, et espérer faire le métier de mes rêves, qui était créatrice de mode. Et le problème, c'est qu'à 24 ans, bah, qu'est-ce qui se passe? T'es trop loin de ton bac. J'étais trop loin de mon bac pour faire une formation après bac. J'ai évidemment pas assez d'argent pour faire une école de mode, ça c'est même pas envisageable. Donc à l'époque, ce que j'ai envisagé, c'est un CAP de couture à la chambre. Alors comment elle s'appelle cette école? La chambre de.
Des métiers?
Non. L'école de couture parisienne, c'est une très grande école. Rue Saint-Roch à Paris. Oh là là, je l'ai bouffé. Bref, dans une grande école de Paris. Un CAP de couture en alternance, et je me suis dit, à diplôme un petit peu plus bas, mais qui va me permettre d'apprendre à coudre, je vais essayer d'avoir une alternance dans quelque chose de plus prestigieux, entre guillemets, et le faire dans une école prestigieuse. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on t'autorise à faire des CAP de couture jusqu'à 25 ans, de 17 à 25 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le patron, paye plus cher pour un élève qui a 24 ans que pour un élève qui a 17 ans, pour un niveau d'études identique, pour un niveau de formation identique. Autant te dire que personne ne veut un élève de 24 ans. Et donc, je n'ai jamais trouvé d'alternance et de patron. Et du coup, je me suis retrouvée à 25 ans à Paris en me disant « Je vais travailler, je vais gagner ma vie, mais je vais vivre à Paris et choper l'opportunité. » Ce qui est très naïf. Ce qui est extrêmement...
Ça se tente.
Ce qui est extrêmement naïf et ce qui pourtant a fait ma réussite, comme quoi, hein, il s'est avéré que... Alors, je vais vraiment essayer de te faire la version courte. Je bossais dans un restaurant et au bout de quelques mois, j'ai quitté ce métier. Et par chance, j'ai un ami sur Twitter qui m'a renvoyé une annonce. Et c'était une photographe qui était sur un shooting du livre de Christina Cordula, qui était un livre de relooking pour les femmes rondes. Et il cherchait quelqu'un pour filer un petit coup de main juste quelques semaines, comme ça fait quelques jours plus précisément. En gros, un petit larbin pour ramener les vêtements qui n'étaient pas utilisés. Moi, autant te dire que j'ai levé la main. Dans les 20 minutes, j'étais au rendez-vous pour me présenter. Et en fait, je suis arrivée avec toute mon énergie, toute ma vibe, toute mon envie. Et du coup, ultra dispo, j'ai été prise. Donc ça, c'était juste un petit job à droite à gauche, mais qui m'a mis un pied dans le milieu du stylisme et de la préparation de costumes à la télévision, en fait. Et en fait, la styliste de Christina Cordula, je me suis très, très bien entendue avec elle. Et en gros, elle m'a dit, j'ai très bien compris ton projet, je me revois quand j'étais petite, quand je te vois. J'ai très bien capté ce que tu voulais faire ici. Elle me dit, j'ai un deal à te proposer, tu l'acceptes ou pas. Mais elle me dit, tu peux rester avec moi. Je t'apprends tout ce que tu veux savoir, des filons du métier, je t'apprends tout. Je n'ai pas d'argent, tu m'aides, quand tu veux, tu t'en vas. Et donc moi, je me suis dit, eh ben, c'est mon stage en fait, c'est mon stage non rémunéré, tu vois, il est là. Et je suis restée avec elle, elle m'a appris, elle m'a tout donné, toutes les clés. Elle m'a donc tous les milieux de... donc elle bossait vachement en télé, elle faisait vraiment du stylisme, elle habillait des Miss Météo, donc elle habillait pas des personnages dans le cadre d'un rôle, ce que j'ai fait plus tard. Mais elle m'a appris tous les filons, comment faire une préparation de costume. Et puis un jour, je lui ai dit, il faut que je m'en aille, j'ai besoin d'argent, elle m'a dit, je comprends complètement. Mais elle m'a tout appris et je lui dois tout, quoi.
C'est Dominique ?
Elle s'appelle Dominique. Tu la connais ?
Bah, bien sûr.
Mais non.
Mais en fait, alors, pour les gens qui nous écoutent, on ne se connaît pas avec Mélo Coco. C'est la première fois qu'on se parle, mais on se connaît avec... On a des amis en commun. Il se trouve que moi, j'ai fait... Depuis que ma fille est née... Moi, je me suis mis à la couture quand ma fille est née, donc il y a 7, enfin 8 ans quasiment maintenant. Et en même temps, j'ai commencé à bosser pour les Reines du Shopping. Avec Christina, donc.
Bien sûr.
Et vraiment, j'ai fait toutes les saisons. Je suis arrivé sur la saison 1 et jusqu'à l'année dernière, je faisais vraiment quasiment toutes les émissions et chaque partie des émissions, c'est-à-dire les portraits, les tournages des shoppings, le plateau, les interviews avec Christina. Donc, évidemment que j'ai croisé Dominique, qui est sa styliste depuis...
Depuis des années.
Voilà. Et donc, oui.
C'est
donc
c'est drôle
que t'aies commencé avec elle, parce que pour le coup, je savais pas du tout, quoi.
Et en plus, tu mets complètement un visage sur la personne, quoi.
Ah, Dominique, elle est vraiment très cool, mais elle est particulière, quoi.
Ouais, mais j'adore.
Elle a un caractère bien trempé.
Ouais. Elle a un caractère bien trempé, et du coup, bah, en plus, on a dû se croiser, entre guillemets, parce que moi, je travaillais avec elle, du coup, il y a... juste avant les Reines du Shopping, je crois, c'était à l'époque. Donc moi, j'ai fait un peu nouveau look pour une nouvelle vie avec elle.
Ouais.
Alors, je n'étais pas là à chaque fois, parce que je te dis, j'étais pas, je travaillais beaucoup avec elle, mais bon, dès que j'avais autre chose à faire ou que je ne pouvais pas, bien sûr. En fait, je faisais ce que je voulais. Je venais quand c'était mon stage, mais à la lettre. Enfin, je venais quand je voulais, quoi. Mais moi, elle m'a tout appris, cette nana. Elle m'a tout appris. Et avec bienveillance et ce qui est fou. Parce que c'est un milieu, parfois, les gens, ils ont tellement peur qu'on leur pique leur taf, dans le cinéma notamment. Ils ont tellement peur qu'on leur pique le taf quand on est plus jeune, que c'est fou à quel point elle a ouvert la porte, en fait, en me disant, je t'apprends tout. Genre, tu me piqueras jamais mon travail, c'est pas la question. C'est, viens, je t'apprends. Et puis, et elle m'a tout appris. Et je me rappelle, quand j'ai eu mon premier tournage à moi, donc je travaillais encore avec elle, donc elle me laissait, elle me laissait faire mes tournages et tout, et puis je revenais quand je voulais. Et je me rappelle, je lui avais montré mon travail, Mon premier tournage, c'était avec 10 minutes à perdre, avec Baptiste Lorber. C'était une parodie de la bande-annonce de The Artist. Donc, c'était des costumes années 30, etc. Et quand je lui montre, elle m'a jamais appris à faire de l'époque, tu vois. Elle m'a appris à faire du style, à gérer un tournage, etc., à me tenir sur un plateau. Mais elle m'a jamais appris à faire de l'époque, tu vois. Et je me rappelle, et elle, je lui montre, elle me fait « Mais tu sais que je pense que t'es plus faite pour les costumes que le stylisme, toi ?» Et j'ai fait « Ah, oh. » Et tu sais, je voyais pas trop la... si elle le dit. Et en fait, maintenant, je comprends ce qu'elle veut dire. Effectivement, je suis beaucoup plus efficace dans une création de personnage que d'en créer le look de quelqu'un, tu vois. Alors qu'elle, elle est excellente d'en créer le look de quelqu'un. Enfin.
Qu'est-ce que c'est la différence entre stylisme et costume ?
Je vais te donner ma définition à moi parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu floue pour tout le monde. Un styliste, il doit faire du beau sur quelqu'un. Une costumière ou un costumier doit faire du juste sur quelqu'un. C'est-à-dire que moi, mon personnage, mon acteur qui joue un rôle, on s'en fout s'il est stylé. Sauf si, bien sûr, son rôle demande ce qu'il soit quelqu'un de à la mode. Mais nous, on s'en fout qu'il soit stylé. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit juste dans son rôle et dans le scénario. Alors que le styliste, il faut qu'il fasse un look stylé. Il faut qu'il fasse un look à la mode ou dans un certain style. Mais faut renvoyer une image, quoi.
Très bien.
Voilà.
Très clair.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Donc le stylisme, en fait, c'est... Non, j'allais dire une connerie. Bah, tu sais quoi, ça, je le couperai. Voilà, rien à
foutre. Bah, dis-la quand même, tu la comprends.
Non, j'allais dire, en gros, le styliste fait plus de... quelque chose d'actuel qui va sans doute être assez... Enfin, pour de l'immédiat, alors que le costumier, c'est quelque chose qui est plus amené à rester, à durer sur le temps, quoi.
Pas du tout.
tu vois que c'était une connerie.
C'est une belle connerie, parce que finalement, un styliste, il va peut-être... Typiquement, Dominique, ce qu'elle fait dans Nouveau Look pour une nouvelle vie, ça marche ou ça marche pas, mais c'est suggérer un style pour la vie, tu vois. Elle donne une marche à suivre, une ligne à suivre, si tu as envie de la suivre, bien sûr. Alors que moi, pour le coup, le costume, c'est one shot, c'est le jour du tournage. Après, le personnage, il est détruit, il n'existe plus.
Donc, oui, mais il est gravé sur pellicule et il va rester des années. C'est ça que je veux dire.
Ah,
c'est
oui.
Que le truc est censé rester et pas se démoder avec le temps. Alors que si tu regardes New Look, Nouveau Look pour une nouvelle vie, les émissions qui ont été tournées en 2010, j'imagine que les styles sont moins... Enfin, tu vas regarder la personne rhabillée et tu vas te dire, bon, à l'époque, c'était peut-être bien, mais aujourd'hui, je ne la rhabillerai pas comme ça, quoi.
Complètement. Après, je peux aussi faire des personnages... Je peux aussi faire des costumes actuels et faire des personnages qui sont très marqués d'une époque actuelle avec une mode très marquée. Et quand tu regardes, ça fait mal. Hein. J'ai encore regardé récemment un épisode d'une série que j'ai fait. Ça pique. Hein. Ouf. Et elle a 4 ans, un truc comme ça. Alors en fait, tu es là, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi c'est complètement démodé? C'est du coup, ça vieillit trop mal. Trop bizarre.
C'est quoi la série, qu'on se rende compte?
Groom.
Mais Groom, c'est des persos hyper...
C'est des uniformes.
J'ai vu que le premier épisode qui était gratuit.
Tout est gratuit maintenant. Régale-toi.
C'est des personnages qui étaient hyper caricaturaux. Et est-ce que du coup, leurs habits se démodent avec le temps?
Alors, les personnages principaux, ce sont des uniformes. Donc, de toute façon, ça ne se démode pas. Et effectivement, le seul personnage qui avait un costume quotidien, enfin, plus dans du stylisme, c'était celle qui jouait l'escort girl. Et ça va, ça n'a pas trop bougé. Non, c'est plus le premier épisode... est censé se passer dans une fête de jeunes gens très 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 riches. Et du coup, j'ai vraiment utilisé des codes qui sont très propres à l'époque de gens très 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 riches. Et c'est vraiment déjà... On comprend... Enfin, c'est même pas que c'est démodé, c'est qu'on comprend pas, tu vois. c'est qu'on comprend pas. Il y a des détails, il y a des colliers, ouais, je trouve. Et c'est vraiment les premières scènes. Et je l'ai revu parce que quelqu'un l'a mis sur TikTok, figure-toi, là, il y a 2 semaines. Et j'ai revu, je l'ai repris en pleine face, j'ai fait « Mon Dieu, purée, c'est pas vrai !» Pourquoi j'ai marqué ça comme ça ?
Ouais, c'est, il y a un gros décalage.
Et c'est des codes de jeunes gens riches, mais qui sont même plus actuels, donc c'est trop bizarre d'avoir fait ça.
Est-ce qu'on peut parler un peu de couture, pour revenir un petit peu sur tout ça ? Est-ce que aujourd'hui, toi, tu couds combien de temps, en gros, par semaine ? Est-ce que c'est une activité que tu te réserves ? Est-ce que c'est un loisir pour toi, ou est-ce que tu essayes d'en faire un peu plus que du loisir ?
Non, c'est du loisir. C'est du loisir, mais c'est vrai que cet été a vraiment débloqué quelque chose où avant, je faisais de la couture, j'y allais un peu à reculons. Et maintenant, tu vois, très souvent, bah là, en ce moment, je suis en mode « Ah, j'aimerais bien débloquer un temps pour coudre. » Ça, c'est nouveau, tu vois. Genre, par exemple, ce week-end, demain et samedi, pour ceux qui écoutent ce podcast, je devais partir en week-end chez une amie et j'ai annulé parce qu'en fait, je me suis dit « Je crois que j'ai envie de coudre un peu tranquille chez moi. » Ça, c'est tout nouveau, ce concept. Tout nouveau.
T'as annulé un week-end chez ta pote ? Pour faire de la couture. Mais t'aurais pu coudre avec elle aussi.
Non, non, je connais.
Oh là.
Je connais. Tout le monde te dérange, tout le monde vient te demander toutes les 5 secondes ce que tu fais. La maison est trop grande, il faut une rallonge pour la machine. Non, non, je connais.
Et puis on va te demander de refaire les ourlets de chacun, chacune.
Oui, oui. Ah tiens, t'as ta machine, c'est marrant, ça tombe bien, regarde mon manteau. Et c'est des trucs irréparables, tu sais.
C'est toujours très compliqué. C'est-à-dire, ça paraît simple pour les gens qui font pas de couture, mais en fait, c'est l'enfer, quoi.
C'est l'enfer.
Et du coup, qu'est-ce que tu préfères, toi, en couture ?
Eh bien, je trouve que la satisfaction du résultat, c'est vraiment, une montée d'un truc vraiment plaisir, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais le moment où t'as le truc dans les mains et que t'as réussi, c'est vraiment tellement satisfaisant.
Donc, c'est à la toute fin.
Il y a peu de choses qui... Ouais, c'est la toute fin. C'est pour ça que c'est dur de s'y mettre. Mais je sais maintenant, cet été m'a montré que le résultat est vraiment très satisfaisant. Et j'ai très peu de choses qui me provoquent ça. La deuxième chose, c'est de faire des vidéos YouTube.
Ok.
La comparaison est dingue, mais le processus de création est tellement long pour moi que il y a 1000 étapes où j'ai envie de tout lâcher. La couture, c'est la même chose. J'ai envie de tout lâcher. Mais maintenant que le moment où je mets en ligne la vidéo, c'est un truc tellement satisfaisant de « Ah, j'ai réussi !» C'est la même chose quand j'ai mon projet dans les mains qui est terminé. Et maintenant que je sais que ça provoque ça, c'est un leitmotiv pour démarrer.
Et du coup, t'es un peu maso parce que tu fais des vidéos sur YouTube. Donc, la seule satisfaction, c'est à la fin. Tu fais de la couture, la seule satisfaction, c'est à la fin. Et tu t'es dit « Tiens, je vais mélanger les deux pour faire des vidéos de couture.
» C'est vrai.
C'est un calvaire, quoi. Sauf à la fin, où là, c'est l'orgasme.
C'est vrai. C'est complètement vrai.
Et du coup, qu'est-ce qui te déplaît le plus en couture ? Quelle est l'étape la plus relou pour toi ?
C'est pas vraiment une étape. C'est que, de manière générale, la moindre erreur, le moindre truc qui se passe pas comme prévu, ça peut être une erreur de couture. Tu sais, quand tu fais ta couture, hop, t'as chopé un bout qu'il faut pas avec. Et du coup, t'as ce petit pli nul là qui va avec. Ça... Ou quand ma canette, ça part en cacahuète et que je me retrouve avec un énorme bourdon de fil, ça, c'est des trucs, ça, je n'ai pas la patience, ça peut me faire péter des plombs. C'est-à-dire que je peux me retrouver chez moi en hurlant, vraiment, en pleurant, c'est déjà arrivé, de pleurer en faisant... Mais vraiment, les crises de nerfs, mais pas possible, quoi. Et ça, c'est ce que je redoute le plus à chaque fois.
Donc, c'est des problèmes techniques qui te rendent folle, quoi.
Ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Et du coup, qui me mettent dans des états de nerfs qui sont terribles, quoi. Pas toi ?
Quand je pique mal, ça me saoule, mais je découds, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas très grave. Et quand la canette... Non, qu'est-ce qui peut me saouler, moi ? Ce qui me saoule, c'est de refaire 2 fois la même connerie. Ça, parce que c'est de ma faute. Parce que je me trouve vraiment très con. Tu vois, quand tu couds une première fois mal, parce que t'étais pas concentré, j'en sais rien, t'as pas fait gaffe, tu redécouds, donc tu passes 10 minutes à découdre, ça me saoule. Et ensuite, tu refais la même connerie. Enfin, je refais la même connerie. Ça m'arrive souvent parce que... Moi, j'écoute des podcasts quand je couds et du coup, parfois, pour un peu que ce soit un podcast marrant, je suis pas concentré et ça m'arrive de faire de la merde, quoi. Et ça, ça peut vraiment me rendre fou. Mais du coup, je sais que c'est contre moi en plus, donc c'est d'autant plus frustrant parce que je peux pas m'énerver contre la machine qui n'a rien fait. C'est vraiment de ma faute.
Ouais, ça.
Donc c'est voilà, ce qui me déplaît le plus en couture, c'est quand je suis trop con pour comprendre ce que je fais et refaire deux fois la même connerie, voire parfois trois fois, parce que bon, dans ce cas-là, j'arrête et je reprends le lendemain, quoi.
En fait, tu as dit aussi un truc très juste. Il faut accepter de défaire, refaire en couture. Et c'est ça qui me fait péter un plomb, c'est qu'à la moindre erreur, bah je fous tout en l'air parce que c'est. Mais en fait, faut vraiment se mettre dans la tête que potentiellement, il faut tu vas défaire ce que tu viens de faire. Tu vas défaire, donc c'est, ouais, un petit conseil pour ceux qui se mettent à la couture. Hop, lancez comme ça. Acceptez de tout défaire.
le découvite est votre meilleur ami.
Ouais, c'est clair.
Gardez-le. Acceptez de tout défaire, acceptez de changer vos plans parce que finalement, ça ne se présente pas comme prévu, parce que votre tissu ne réagit pas comme c'était prévu non plus. Et voilà, faut s'adapter. Mais ça, c'est un réflexe peut-être qu'on a, nous, en télé, quoi, où rien ne se passe comme... Enfin, rien ne se passe. Si, dans le meilleur des cas, ça se passe comme prévu, mais il y a souvent beaucoup d'imprévus et de choses qu'il faut rectifier au dernier moment, juste avant de tourner la prise, quoi.
Mmh, c'est vrai.
Enfin, bon, moi, c'est un peu le truc que je me remets en tête, c'est toujours d'essayer de m'adapter quand quelque chose ne fonctionne pas comme je l'avais imaginé, mais bon. J'essaye d'anticiper au maximum avant de lancer mes projets. Est-ce que tu as une astuce en couture, quelque chose que tu fais depuis, que tu as découvert il n'y a pas longtemps et qui a un peu changé ta vie en couture, une manière de coudre, une technique ou un ustensile, un accessoire, quelque chose qui vraiment t'a fait peut-être progresser ou qui t'a fait approcher la couture d'une autre façon?
Non, je réfléchis, mais je vais dire un truc. Je vais dire un truc qui est un peu à côté de la plaque, mais je vais le dire quand même, tu le gardes ou tu le gardes pas. Mais l'astuce, c'est de lire la notice de sa machine à coudre.
De pas se lancer bille en tête? On la sort pas de la machine et on la branche et c'est parti?
Ouais, je m'explique parce qu'en fait, par exemple, moi, ma machine là que j'ai, bah, en fait, j'ai jamais lu la notice. Hop, j'ai fait les choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a très peu de temps, que je ne mettais pas ma canette dans le bon sens.
C'est quoi ta machine?
C'est une Singer, j'ai pas le modèle.
Ok.
Mais en fait, alors j'ai pas les termes, hein, mais la canette, quand tu la mets, il y a un petit mouvement à faire pour coincer un peu le fil, pour qu'il parte dans un... qu'il y ait un bon démarrage. Et ça, je l'ai jamais fait. Donc tu vois, quand je te parle des bourdons pris et tout machin, bon, ça vient sûrement de là. Et donc, la dernière fois que je l'ai utilisé pour faire quoi? Ah, mon béret, j'ai fait un béret. Dans un pantalon de costume, dans un vieux pantalon. Je me suis dit, attends. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut arrêter, Mélo, c'est de faire les choses comme ça, comme tu le sens. Et je me suis dit, on va reprendre les choses de départ. Est-ce que je mets bien les choses correctement? Et donc j'ai découvert, grâce à une vidéo YouTube, en tapant, si vous n'avez plus la notice, maintenant Internet est là, avec le modèle et tout, j'ai trouvé 1000 vidéos de gens qui ont le même modèle et qui montrent précisément comment faire. Et je me suis rendu compte que je n'embobinais pas ma canette correctement et que je ne la plaçais pas correctement.
Ça fait beaucoup de trucs quand même. T'as eu de la chance de réussir à faire des points jusque-là.
Et en fait, tout s'explique pourquoi je pense que ça s'en mêlait autant, parce qu'elle était mal enroulée de départ et qu'en plus, elle était mal positionnée. Et donc, souvent, sans raison, clac, 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 hop, le truc était avalé, tu tires, t'abîmes ton tissu, tu coupes, tu pètes un plomb en coupant, tu coupes la moitié de ton fil, enfin, tu connais. Tu vois, je te fais une image, mais tu connais. Et donc voilà, bah, mon astuce que j'ai découvert récemment, c'est une étape après l'autre, lisez la notice.
Je vais te faire un aveu.
Pas mal, non?
Je vais te faire un aveu, Mélo. J'ai cousu 6 mois en mettant la canette comme elle venait dans le compartiment. Un peu comme toi, en fait. J'avais pas compris qu'il y avait un sens de déroulage de la canette dans le compartiment et je la mettais comme elle se présentait. Donc une fois sur deux, ça marchait. Puisque voilà, une fois sur deux, elle était dans le bon sens, mais c'est après coup que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un sens dans lequel le fil doit se dérouler pour que ça fonctionne correctement. A priori, peut-être que ça fonctionne dans l'autre sens aussi, mais moins bien, et effectivement, ça fait des petits... ça fait des petits bourrages, quoi. Ça fait des bourdons, comme tu dis, c'est un joli terme.
Ouais, j'appelle ça des bourdons, parce que je sais pas.
Ouais, c'est... des grosses mouches écrasées.
Oui, 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 ça fait une espèce de gros machin. Mais donc, attends, c'est dingue ce que tu es en train de dire.
Mais parce que moi, par contre, j'avais lu la notice, mais c'est quelque chose de tellement précis, tu vois, c'est quand même... C'est une ligne sur 50 pages et il faut voir le fil ouais. passer dans le... Non, alors là où j'ai vraiment été con, c'est que moi, c'était gravé sur la machine quand même. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que je mettais la canette, j'aurais pu voir qu'il y avait une petite flèche qui m'indiquait le sens des déroulages du bordel.
Attends, je vais regarder, mais je crois que je l'ai noté. Je crois que c'est sur la merde. Je regarde, je te dirai ça plus tard, mais... Non, mais c'est dingue. Donc, comme quoi, c'est une bonne astuce que je viens de donner, de lire la notice.
Lire la notice.
Et relire. Ouais. Et relire la notice.
Et peut-être, à chaque fois qu'on veut faire une nouvelle chose en couture, effectivement, relire la notice, cette étape-là pour... Parce que lire la notice d'une traite quand tu reçois la machine, déjà, quand tu reçois une machine, t'as envie de la tester et pas forcément de taper un bouquin de 50 pages un peu rébarbatif. Mais voilà, à chaque fois que tu veux faire une boutonnière automatique, les procédures sont toujours un peu similaires, mais il y a quand même des choses qui changent d'une machine sur l'autre. Et effectivement, le sens de déroulage de la canette, bon, c'est important. Mode d'emploi qu'on peut retrouver effectivement maintenant sur Internet. Si tu récupères une machine,
oui.
Il y a pas mal de sites qui te les proposent. Attention aux arnaques.
Ah ouais?
Puisque il y a des sites qui te demandent d'envoyer un code, tu sais, un audiotel, je sais pas quoi, pour télécharger une notice. Mais ça, c'est pour les machines à coudre et c'est pour tous les trucs d'électroménager. Il y a vraiment des sites qui font un business là-dessus, quoi.
Ça alors?
Alors que tu peux trouver le truc ailleurs sur d'autres sites, mais voilà, ils sont un peu moins bien référencés pour le coup.
Mais même chaque étape sur YouTube, elle est revue. Enfin, tu peux trouver plein de vidéos qui refont étape par étape. Enfin, vraiment, moi j'ai trouvé une vidéo sur comment mettre la canette sur la singère, tel modèle et tout quoi.
C'est pratique.
C'est très pratique. C'est très pratique.
Comment tu trouves tes idées, toi, en couture? Tu fais beaucoup de trucs très J'ai l'impression que tu fonctionnes en fait à l'envie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que t'as une idée, un peu un truc qui te titille et tu te dis je vais le faire même si j'ai aucune, je l'ai jamais fait avant et je ne sais pas comment procéder, je me lance et on verra quoi?
Bah ouais, c'est un peu à l'envie. Je traîne pas mal sur Pinterest déjà pour choper des inspi. Ça peut être aussi, tu sais, comme je faisais un peu d'upcycling et tout, ça peut partir d'un tissu ou d'une matière ou d'un truc que je trouve intéressant d'upcycler. Je pense par exemple, j'ai fait un ensemble en serviette éponge. Bah, à l'origine, ça partait vraiment d'une idée de, tu sais, on a tous ces serviettes chez mamie qui sont très datées, qui sont souvent blanches et couleur pastel. Sont plus très jolies, enfin, à part les gens qui aiment bien les trucs un peu kitsch, c'est vrai que c'est pas quelque chose que les gens gardent et ça n'a pas beaucoup de valeur. Et ça, on en a beaucoup. T'en trouves beaucoup chez Emmaüs, t'en trouves beaucoup partout. Et je m'étais dit, faut y trouver une idée pour réutiliser ces serviettes-là. Il y en a tellement. Et du coup, je me suis dit, un ensemble de plages, par exemple, ce serait génial. Bon, ce qui s'est passé, c'est que mon mec est revenu d'un séjour de taf dans un... camp de comment on appelle ça, un
centre de vacances,
hein. Ouais, un centre de vacances où ils lui ont offert une serviette et bon, du coup on savait pas quoi en faire et je dis bah je vais upcycler celle-là, je vais pas aller acheter une serviette pour faire de l'upcycling alors que j'en ai une que je vais pas dont je vais pas me servir, ça n'a aucun sens. Donc j'ai utilisé celle-là. Le béret, là, plus récemment, le béret dans le pantalon de costume, ça partait aussi d'un constat de en friperie le nombre de blazers qu'on trouve, mais ça c'est fou. Les costumes hommes, c'est un truc qui envahit tellement les fripes et les gens les upcyclent un peu, les remettent parce que le blazer oversize est à la mode, mais c'est vrai que les pantalons, c'est des trucs, il y en a des quantités, t'es d'accord, mais c'est fou quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et du coup, je me suis dit, faire des petites pièces comme des bérets, par exemple, dans un blazer ou un pantalon, ça peut être hyper sympa, tu vois. Donc ça vient plus de l'idée de, ah, il y a ça en trop grande quantité. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et ça vient, il peut y avoir aussi, là, j'ai fait une robe avec, et une jupe avec, en utilisant des boas en plume. Et ça partait aussi d'un constat de, c'est hyper à la mode, ces vêtements avec des plumes partout. Alors, c'est plus des plumes d'autruche ou du boa d'autruche en général, c'est pas du boa comme moi j'ai utilisé. Mais c'était le constat de... comment on pourrait faire autrement moins cher? C'est souvent très cher ces pièces-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boas qui traînent. Enfin, Ça, c'est venu d'un constat aussi de... Je venais de vider le stock costume du studio Bagel et il y avait énormément de boas comme ça. Je me suis dit, mais ça, c'est dingue. On en achète. Et après, on ne sait plus quoi en faire. Et du coup, voilà, je me suis dit, ah tiens, et il y avait deux robes identiques dans ce même stock. Et je me suis dit, bah tiens, il y a un truc à faire avec ça, tu vois. Bon, c'est sûr que tout le monde n'a pas accès à un stock costume à vider, ça, c'est certain. Mais je pense que des boas, on en trouve en friperie. Donc voilà, ça peut venir de plein d'idées.
De ce que tu as sous la main, des occasions.
Le petit top avec les trois chutes de tweed, bah ça c'est parce que j'avais fait une boutique qui vendait des chutes de tweed pendant les soldes pour des sommes genre pour 70 centimes le petit carré, et j'ai été au coup de cœur, j'ai pris, je sais pas quoi en faire parce que tout est petit, et je me suis dit bah il y a trois bouts identiques, il y a forcément un truc à faire, et donc là c'est moi qui ai cherché quelque chose sur internet, une idée, un patron, quelque chose à faire avec un tissu plus long que large, quoi. Donc ça peut venir de n'importe quoi.
J'ai l'impression que systématiquement, ça vient quand même de la matière première que t'as. T'as pas forcément un projet à la base, t'as plutôt quelque chose à upcycler ou quelque chose qui te plaît, une matière qui te plaît, et c'est ça que tu travailles ensuite.
C'est vrai, t'as raison. Je vais plus avoir un truc de départ et me dire, je l'aime pas tel quel, qu'est-ce que je pourrais en faire ? Et hop, et on va chercher de l'inspi et chercher de la transformation. Oui, t'as raison. Ouais, c'est plus ça.
Quels sont tes projets couture, toi ? Imaginons, dans 3-5 ans, on te retrouve où, comment, tu fais quoi en couture ?
Alors, bon, j'espère que j'ai level up.
Ok.
Tu vois ? Alors, level up comment ? Mais plus, c'est vrai que je fais des trucs très basiques, hein, mine de rien. On reste sur des points droits. Tout à l'heure, tu as parlé de boutonnière. Bon, bah, tu vois, j'en suis même pas à ce stade-là. Je ne fais pas de pièces compliquées, quoi. Donc, ouais, level up, si je peux avoir atteint, arriver à faire des pièces un peu plus compliquées, déjà ne serait-ce que des pantalons avec des poches ou des choses comme ça, tu vois. Ça, je pense que je devrais être capable. Mais c'est sûr que, ouais, dans 5 ans, si je peux arriver à faire tout ce qui me passe par la tête de manière très naturelle et spontanée, c'est cool.
Et dans ton métier, est-ce que tu as envie de peut-être de mettre plus de couture ?
Ouais, j'aimerais bien, mais... C'est vraiment compliqué parce que déjà la couture c'est pas forcément économique, ça on le sait, et du coup dans le cadre d'un projet j'ai des contraintes de temps et de budget, et il y a rien qui va pour faire de la couture en fait avec ce que je viens de te dire. Il y a rien qui va, c'est malheureux, mais c'est souvent moins cher d'acheter et c'est surtout plus rapide, et surtout quand j'ai un comédien il faut que j'ai des pièces, il faut que j'ai des choses à essayer, donc du coup si je peux pas me permettre de tout coudre pour essayage, c'est compliqué. Après, là, récemment, je sors d'un tournage de un mois pour un projet. Et alors, je peux rien dire. Mais en gros, la comédienne qui est proche de moi, je me suis autorisée à lui montrer en avant l'idée que j'avais et pour qu'elle n'ait pas de choix, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une pièce... Et je me suis mis en accord avec elle, et elle m'a dit « Oui, t'inquiète, on peut y aller et tout. » Et c'était ça ou rien, mais c'était un coup de poker, quoi. Mais là, j'ai fait une pièce à moi, ouais. J'ai rajouté une petite pièce créée.
Et est-ce que t'envisages peut-être de faire plus de couture sur les réseaux, de partager plus de tutos, plus de créations sur les réseaux sociaux ?
Ouais, ça, c'est vraiment un truc qui, au-delà de la découverte de « Ah, je suis pas si nulle en couture », le concept du partage et de la vidéo... de création, j'ai adoré le faire, j'ai adoré partager ça, j'ai adoré montrer ça, ça me rendait fière, et ouais, bien sûr qu'en fait, l'idée c'est d'en faire beaucoup plus, maintenant je t'avoue que ça me prend un temps, j'ai passé un mois de juillet et d'août abominable, que ce soit bien clair.
Tu veux nous parler de la petite jupe imitation, enfin pas imitation, mais inspirée de... Oh. C'est Yves Saint Laurent, c'est ça ?
Paco Rabanne,
pardon.
Quelle idée.
Moi, j'ai eu un retour par une amie qu'on a en commun qui m'a dit que visiblement, c'était pas ta meilleure idée.
Ah non, ah ben
bien
oui.
Bien que le résultat soit payant. Hein.
C'est drôle parce qu'en plus, Cathy a débarqué. Donc, notre amie commun, c'est Cathy. Cathy a débarqué chez moi le soir même où je l'ai terminé. Il faut savoir que je l'ai terminé avec une journée de retard et okay. Qu'il m'aurait fallu encore 2 jours pour la faire comme je l'avais en tête. Mais il fallait que ça se termine. Et Cathy est arrivée. Et donc, elle était sur la table. Je faisais un rejet total de cette pièce. Genre, je... Et donc Cathy est arrivée et a fait « Oh, mais c'est hyper joli, mais attends, mais ça rend hyper bien !» Et vraiment, j'ai été, je crois, hyper sèche avec Cathy. Je lui ai fait « Je préfère plus en parler. Je ne souhaite plus parler de cette pièce. » Et elle me dit « Pourquoi ?» Je fais « Je la déteste. Je la déteste. » Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancée dans cette idée qui est de recréer une jupe iconique, la jupe en métal de Paco Rabanne, à base de sequins en plastique que j'ai récupéré d'une vieille robe, que j'ai trouée, auquel j'ai rajouté des anneaux, que j'ai tressé ensemble, etc., pour faire des petites chaînettes. Et en fait, il s'avère que c'est extrêmement long, que c'est extrêmement douloureux, parce que faire les trous dans les sequins demande une force. Et j'en ai troué, je pense, 400. 4 fois, chacun. Vraiment, c'était douloureux, c'était long, et le résultat est pas fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sequin est très fin, et mes anneaux, j'ai beau avoir été très précise pour les serrer le plus possible, il y a toujours un jeu. Et en fait, elle est d'une fragilité. Dès que je la porte, il y a des mailles qui sautent parce que le petit sequin, il va sortir de l'anneau. Et en fait, sincèrement, elle est importable. La vérité, c'est qu'elle est... Elle n'est pas portable.
Ah, je ne savais pas ça. Moi, j'ai vu le résultat sur ton reel.
Ouais.
Mais je ne savais pas que tu... Je savais que tu l'as détestée.
Je la déteste.
Mais je ne savais pas que tu l'as...
Tu peux pas la porter.
Elle était fragile et que tu
ne
pouvais pas la porter.
Non.
Oh, l'enfer.
Elle marche pour des photos. Elle marche... elle est sur mon mannequin puisqu'elle est en déco maintenant, tu vois. Mais je ne peux pas la mettre dans la vraie vie alors que l'idée, c'était de la mettre dans la vraie vie, quoi. Parce qu'en fait, je ne peux pas m'asseoir. Parce qu'elle va se détruire. Elle va se détruire. Donc...
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Forcément, c'est ennuyeux.
Je suis un peu déçue. Et, alors, c'est pas tant l'argent que ça m'a coûté. Parce que les petits anneaux, c'est 5 euros par là, 5 euros... Donc, c'est pas tellement ce que ça m'a coûté. C'est le temps que ça m'a pris, qui est considérable. Et puis, voilà.
Et le stress, enfin, l'énervement et tout, t'as perdu des années de vie, là.
J'ai perdu l'espérance de vie. Je suis restée assez calme. C'est juste que du coup, je l'ai non seulement posté avec un jour de retard, ce qui n'est pas dramatique, mais bon, du coup, le concept d'outfit, comme je l'ai posté le 1er septembre, était moins fort. Mais c'est pas très grave. C'est surtout qu'en plus de l'avoir posté avec un jour de retard, elle n'était pas comme je la voulais. Il m'aurait fallu vraiment encore un ou deux jours pour aller au bout de ce que je voulais. Mais au fait, au bout d'un moment, j'ai vite capté aussi qu'elle était importable. Et je me suis dit, je ne vais pas non plus y passer 4 jours. Enfin, là, vraiment, ça va. Et puis, en fait, elle me rendait dingue. Cathy, quand elle est rentrée chez moi, vraiment, j'ai eu un rejet. J'ai dit, je la déteste, ne m'en parlez pas, je la hais. Je la hais, je viens de passer 48 heures. J'ai passé 2 jours dessus non-stop, quoi. C'était fou.
Tout ça pour un reel. Enfin non, à la base, tu voulais la porter et tout, mais en l'occurrence...
Bah non, à la base, je voulais vraiment avoir un dupe de la jupe Paco Rabanne pour pouvoir la porter, et c'est loupé, quoi.
Bah t'as plus qu'à acheter la vraie.
Et alors, tu sais quoi ? Du coup, la vraie coûte très cher.
J'imagine.
La vraie, elle coûte 1000... c'est un 4 chiffres. Et bah n'empêche que du coup, son prix est devenu sensé dans ma tête. Au début, je me disais, non, mais ça va pas, ils sont fous, quoi. Et en fait, en essayant de la reproduire, en voyant le temps que ça prend... de voir que même en y passant 2 jours, elle n'est pas parfaite, je me suis dit, ça y est, je comprends le prix, en fait. Et c'est donné, je pense, par rapport au temps que ça prend. Parce que ça, c'est pas fait industriellement, hein. Ça, c'est des petites mains qui font... Bah, c'est OK. C'est grave OK.
Allez, on économise, c'est parti.
Ouais, ouais.
Merci, Mélo.
Mais merci à toi. On a passé un doux moment, j'ai l'impression.
Couturière, couturier, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On est à 50 minutes, alors franchement, bravo. Je vous mets dans les notes de l'épisode tous les liens pour retrouver le travail de Mélodie. Il y aura son Insta et sa chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ça sort, je vous le rappelle, à 7h du matin tous les samedis. La semaine prochaine, je reçois une blogueuse et créatrice de Patron. Je ne vous en dis pas plus, voilà, c'est un peu la condition. Vous avez intérêt à revenir écouter si ça vous intéresse. D'ici là, je vous souhaite de faire beaucoup de couture. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.